Les années-lumière, édition du 13 juin 2010. La fête du soccer est commencée. Le Jabulani roule et la science en profite pour faire de beaux coups francs. Bonjour, ici Chantal Srivastava en remplacement de Yannick Villedieu. Je suis en compagnie de toute l'équipe pour vous présenter cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne. Alors, Hugues de Roussan, vous commencez en nous parlant de la science du foot et de ce fameux Jabulani.
Oui, le Jabulani, c'est le tout dernier cri en matière de ballon rond. Un ballon rond qui sera objet de défi à l'intelligence collective des équipes qui vont s'affronter en Afrique du Sud.
Nous poursuivons Gaëlle Lucia Berdeau avec une belle histoire de dragons des mers.
Des reptiles marins préhistoriques qui ne crachaient pas de feu, mais qui avaient quand même le sang chaud.
Ensuite, au courrier des années-lumière, nous décortiquerons cette soi-disant nouvelle cellule synthétique réalisée par le célèbre Craig Venter. Et pour terminer la première heure à la chronique des années-lumière, Hervé Fischer nous parlera des grandeurs et misères du téléphone cellulaire qui nous permet aujourd'hui de faire le meilleur et aussi le pire. Puis, en deuxième heure, on commémore le 100e anniversaire de la naissance du commandant Jacques-Yves Cousteau, celui qui nous a fait découvrir les océans dans le confort de notre salon. On accueillera sa veuve, Francine Cousteau, qui poursuit aujourd'hui son œuvre. Une grande rencontre à ne pas manquer, c'est en deuxième heure. Et pour conclure l'émission, Sophie-André Blondin, vous accueillez les auteurs de la semaine, deux hommes qui ont littéralement les mathématiques dans la peau.
Jean-Marie Deconinck et Jean-François Cliche s'y mettent à deux auteurs et à deux tomes pour nous faire aimer les mathématiques dans les livres en chair et en maths. Rencontre avec les mathématiques qui façonnent notre quotidien, c'est chez Septembre Éditeur.
Mais tout d'abord, le ballon rond. Eh bien, ça y est, c'est parti. La Coupe du monde de football ou de soccer, comme on dit en Amérique du Nord, est enfin commencée. Durant le prochain mois, la planète tout entière va vibrer autour d'un petit ballon rond. Un ballon, il faut le dire cependant, qui soulève beaucoup de controverses et qui en est d'ailleurs à sa 11e version depuis 1966. Ce ballon a un nom, le Jabulani, ce qui veut dire « célébré » en langue zoulou. Il est louangé par certains, détesté par d'autres. Bref, ce ballon est à la fine pointe de la technologie, Hugues de Roussan.
Oui, chaque Coupe du monde est en fait l'occasion de lancer un nouveau ballon sur le marché et chaque nouvelle version de ce ballon se veut meilleure que la précédente. Et le Jabulani n'échappe pas à cette règle. Selon ses concepteurs, il est d'une qualité exceptionnelle et son contrôle est optimal. Mais qu'en est-il vraiment? Il est sur le marché depuis 6 mois et il a été testé sur le terrain aussi, notamment lors de grands tournois européens. Résultat, il ne fait pas l'unanimité. Mais ce n'est pas étonnant, Chantal. À chaque Coupe du monde, c'est la même chanson.
Bien évidemment. Alors, ce ballon, Hugues, le Jabulani, en quoi est-il différent des versions précédentes? Est-ce qu'il a, il faut le dire, des caractéristiques particulières?
Bien, ce ballon, il est entré dans l'ère technologique. Il est composé d'un matériau qui tient plus du plastique à l'œil et au toucher. On est loin du cuir traditionnel. Il est aussi composé de 8 panneaux sphériques soudés entre eux et non pas cousus, ce qui le rend plus rond, plus lisse et plus léger. Les joueurs de terrain l'apprécient, mais les gardiens le détestent. Il serait, selon eux, trop imprévisible, il bougerait dans toutes les directions et serait donc également plus difficile à arrêter. Autrement dit, le ballon flirterait davantage. Pierre Hulafroy est directeur du développement et entraîneur en chef de l'Académie de soccer de l'Impact, le club de soccer professionnel de Montréal.
Les compagnies recherchent des matériaux de plus en plus réactifs avec des ballons les plus rond possible. C'est difficile de jumeler les deux et de combiner ça à des trajectoires rectilignes avec des ballons qui restent en l'air plus longtemps. Et ces ballons-là, ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'ils montent très très vite. Mais dès qu'ils se mettent à redescendre, les trajectoires sont très tombantes rapidement. Ce qui fait que quelquefois, on a l'impression de ballons qui vont sortir ou passer au-dessus du but. Et d'un seul coup, plongent et passent sous la barre. Et là, ça surprend également beaucoup les gardiens.
Quand vous parlez de ballon qui flotte, qu'est-ce que vous entendez ?
Ballon qui flotte, c'est un ballon qui, au lieu de partir d'un point de manière rectiligne, il va aller du point A au point B prime, en passant par des petits virages de gauche et de droite. C'est comme un ballon de baudruche qui se dégonfle et qui commence à partir un peu dans tous les sens. Et c'est ce qu'on remarque en fin de trajectoire, lorsque la force cinétique commence un petit peu à diminuer, puis la gravité refait son œuvre. Eh bien, on a ces ballons qui perdent leur trajectoire d'origine, qui deviennent difficiles à apprécier, surtout pour les gardiens.
Est-ce que ça veut dire, si on prend les anciennes versions des ballons où c'était cousu, les coutures faisaient qu'avec l'aérodynamique du ballon, ça pouvait changer de direction ?
Exactement. Les coutures permettaient d'avoir quand même une plus grande stabilité en vol, si je puis dire. Et puis l'effet qu'on mettait dans le ballon durait beaucoup plus longtemps. À l'heure actuelle, l'effet qu'on met dans ces nouveaux ballons-là, il est très important sur le début de la trajectoire, mais cet effet commence à perdre effet, c'est le cas de le dire, en fin de trajectoire, ce qui rend encore une fois là difficilement appréciable les trajectoires par le gardien. Et pour les frappes de précision à 20 mètres du but sur des coups francs directs, un joueur qui veut placer cette balle en lucarne par exemple, ça devient également un petit peu plus aléatoire parce que la fin de trajectoire du ballon est beaucoup plus difficile à apprécier aussi pour le tireur. Ce qui explique aussi que les gardiens ont de moins en moins tendance à bloquer les ballons et plutôt à les boxer pour éviter justement ces risques de mauvaise prise de balle sur des ballons qui n'arrivent pas franchement vers eux.
Pierre Lafroy, qui est entraîneur-chef de l'Académie de soccer de l'Impact, le club de soccer professionnel de Montréal. Alors, Hugues de Roussan, meilleur ou pas, ce qui reste, c'est qu'il faut faire avec ce ballon parce que c'est le ballon officiel à la Coupe du Monde. Et il faut dire aussi que le ballon, c'est pas ce qui fait le joueur. Hein. C'est ici qu'entre bien sûr en scène le talent, la préparation, la capacité à s'intégrer pour jouer au sein d'une équipe. Et là, on parle de tout autre chose. Il faut le dire, on parle d'intelligence collective.
Oui, Chantal, et cette intelligence collective, on pourrait la définir ainsi. Il s'agirait de la capacité collective à s'adapter tout en poursuivant un but précis, en réalisant des performances dans un cadre extrêmement fugitif et évolutif. Ce sont donc des actions individuelles qui sont mises au service du collectif, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'intelligence collective, c'est l'équivalent de la somme des actions individuelles. Jeanne Manet est scientifique de formation et elle est aussi professeure de psychosociologie en sciences de l'éducation à l'Université de Provence.
Tout l'enjeu est là. On voit bien que quand un collectif, une équipe, des amis, que ce soit une équipe au travail, une équipe sportive, un orchestre, un groupe d'amis, voire même une famille, poursuit un but collectif, on voit bien d'une part que les membres ont des fonctions complémentaires, ce qui est absolument nécessaire, mais que le tout n'est pas égal à la somme des parties, mais le tout dans la situation d'une bonne entente et d'une bonne complémentarité de cette équipe, le tout est supérieur à la somme des parties qualitativement. En cas de conflit, de tension, de mauvaise complémentarité, le tout peut être inférieur à la somme des parties. C'est-à-dire, on peut avoir des gens très talentueux, mais en fait, il y a des conflits, des rivalités, une complémentarité peu satisfaisante, et en fait, le résultat collectif va être inférieur à la somme des talents individuels, si j'ose dire.
On parle de qualité, mais est-ce que c'est quantifiable, cette intelligence collective ?
Elle est difficilement quantifiable, parce que l'intelligence elle-même est difficilement quantifiable, même si on a toujours des outils qui semblent approcher ou qui donnent une illusion d'approcher quelque chose qui est éminemment qualitatif à travers les QI, etc. On peut dire qu'on mesure. Non, je crois qu'elle peut être mesurée indirectement par la performance.
Comment cette intelligence collective se construit ? Elle se base sur un certain nombre de variables. Quelles sont ces variables ?
C'est de tout temps. Par exemple, dans la chasse aux mammouths, il y avait certainement toute une intelligence collective parce que l'enjeu était énorme et que cette chasse n'était pas du tout à la mesure d'un seul être humain. On a pu voir ça dans la chasse à la baleine, on a pu voir ça dans des situations militaires ou sportives. Alors, quelles sont les variables? Eh bien, la première chose, bien entendu, il ne faut pas négliger l'entraînement individuel, c'est-à-dire les talents individuels doivent être travaillés, doivent être reconnus. Donc il y a bien sûr un aspect de formation et d'entraînement individuel, mais avec un partage, avec des moments de travail en équipe où on travaille la communication, la complémentarité, la complicité, l'acceptation de l'autre. Il faut absolument quelqu'un à la tête de l'équipe, alors ça peut être le capitaine de l'équipe, le chef, le manager, mais également, aujourd'hui c'est très à la mode, un coach externe qui ne partage pas d'ailleurs forcément les compétences des membres de l'équipe, mais qui a un regard extérieur et qui vise surtout à donner, à développer toutes les qualités humaines de courage, de solidarité, de dépassement de soi et puis d'apaisement des conflits qui, bien entendu, la nature humaine fait qu'il y a sans arrêt des conflits naissants qu'il faut apaiser pour que cette intelligence collective émerge, car c'est un phénomène émergent, auto-émergent ou co-émergent, comme vous voulez.
Jeanne Manet, donc, est professeure de psychosociologie en sciences de l'éducation à l'Université de Provence. Hugues, cette intelligence collective, on la retrouve dans le domaine du sport, mais également dans la nature.
Oui, dans la nature, mais cette intelligence collective n'est pas la même. Par exemple, en sport collectif, l'intelligence collective repose sur un réseau de décisions individuelles coordonnées à l'intérieur d'un système de jeu, ce qui permet aux joueurs de s'adapter à l'évolution de la situation. Mais dans la nature, notamment quand on parle des insectes, c'est un peu différent.
Ou de la chasse aux mammouths.
Pierre Barloba est ancien professeur d'éducation physique et maintenant il enseigne et il est professeur de sociologie à la Sorbonne.
Les fourmis, les termites, les abeilles ont un système global stupéfiant dans la mesure où ça fait vraiment penser à une intelligence collective. Par exemple, si on abîme une termitière ou une fourmilière, les insectes la rebâtissent de façon extraordinaire en reconstruisant tout ce qui était nécessaire, comme si chaque termite possédait dans sa tête le plan général. On sait qu'il n'en est rien. C'est-à-dire que dans le cas de la termitière ou de la ruche, il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de coach. Et pourtant, tout se passe à merveille. Comment expliquer cette intelligence collective qui est si remarquable? Actuellement, on s'oriente vers une explication en termes d'interaction au contact. C'est-à-dire que les analyses, les observations ont montré que les insectes réagissent au contact par des processus chimiques, par des relations avec leurs antennes. Bref, ça se passe de façon étonnante, au contact l'une de l'autre par des interactions de proximité. Et ce sont ces interactions de proximité non intelligentes qui produisent un phénomène de super-organisme profondément intelligent.
Si on revient au cas d'un sport collectif, il existe dans tout système de jeu, dans tout déploiement collectif du jeu, il existe des initiatives individuelles qui même font en sorte que le joueur sort du système de jeu pour faire avancer le jeu, quitte à le réintégrer plus tard. Est-ce que les fourmis et les termites sont capables de faire ça?
Non, pas vraiment, parce que les fourmis et les termites réagissent, on appelle cela des tropismes, des réactions élémentaires à des problèmes d'odorat, des problèmes de pesanteur, de chaleur, d'humidité. Et c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est que des individus très limités intellectuellement, enfin cognitivement, produisent collectivement une action et des productions, quoi, la termitière, la fourmilière, d'une prodigieuse complexité. Si je poursuis la comparaison, je m'interroge vis-à-vis des joueurs de handball ou de football. Que se passe-t-il à leur niveau? Les footballeurs ne sont pas programmés génétiquement. Les règles du handball ne sont pas les mêmes que celles du football, donc c'est forcément appris, c'est culturel, donc c'est un problème tout à fait différent. Cela signifie que les joueurs doivent réagir individuellement en comprenant le schéma global et en s'ajustant au mieux en fonction de ce que font les autres. Ça pose aussi un problème qui n'est pas uniquement cognitif. Nous nous sommes rendus compte que l'intelligence de jeu, l'intelligence collective, reposait aussi sur des phénomènes affectifs. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un problème formel d'intelligence sèche, de pur formalisme. Ces conduites individuelles, inter-individuelles, sont profondément imprégnées de données affectives, d'amitié avec les autres, de désir de réussite.
Sur le plan théorique, donc, Hugues, on comprend mieux, de mieux en mieux, ce concept d'intelligence collective. Reste à savoir ce que ça donne sur le terrain.
Bien, Chantal, il reste encore à peaufiner notre compréhension de l'intelligence collective et surtout, il faut encore développer des outils qui pourront éventuellement aider les entraîneurs d'équipe qui, pour le moment, ont une connaissance empirique de ce que peut être l'intelligence collective. À nouveau, Pierre Parlebas.
Jusqu'ici, on a beaucoup travaillé en sport collectif sur les aspects techniques, les aspects de puissance, qui sont des aspects tout à fait intéressants. Mais on a omis de travailler justement sur la transmission de sens au travers de signes. C'est-à-dire que lorsqu'on joue, lorsqu'on est sur le terrain, on est toujours en train de prélever de l'information. Alors on prélève des informations, bien sûr, sur l'espace, sur la ligne des 6 mètres, des 9 mètres, la position des buts adverses, tout ça, bien sûr. Mais surtout, on prélève de l'information sur les partenaires et sur les adversaires. Comment ? Quels sont ces signes ? Bien, c'est des postures, des placements, des accélérations, des bougements de bassin. Autrement dit, on attribue un sens tactique à des mouvements corporels. Et finalement, il se produit, je vais employer simplement une métaphore, une sorte de langage corporel, de langage gestuel que le joueur déchiffre sur le terrain. Alors, on appelle ça la sémiologie, c'est la science des systèmes de signes. Et nous parlons d'une sémiologie de la motricité, donc d'une sémiotricité. Et je pense que cette sémiotricité, c'est-à-dire ces échanges de signes, sont à la base des conduites des joueurs. Nous sommes encore très ignorants sur ces systèmes, mais on commence déjà à les travailler, à les observer. Et je pense que dans les années qui viennent, les entraîneurs vont de plus en plus s'intéresser à cette sémiotricité, parce que tout se passe maintenant, comme vous le savez, au dixième de seconde. Et au dixième de seconde, ce qui va prévaloir, c'est la capacité de décoder les conduites des partenaires, des adversaires, pour les précéder, pour anticiper. Hein. Le gros problème du handball, du football, du rugby, c'est d'anticiper à bon escient. Mais pour anticiper, il faut pré-percevoir ce qui va se passer. C'est-à-dire, il faut que les signes deviennent des signes avant-coureurs de la course. Cela demande, alors d'une part, une intelligence manifeste de la part des joueurs, alors une intelligence bien sûr de type moteur, de type corporel, mais une intelligence réelle, et puis surtout une intelligence partagée, parce que les codes peuvent varier de joueur à joueur, d'équipe à équipe. Ce qui fait que si on met en France, par exemple, les 11 meilleurs joueurs de l'ensemble des équipes, on a forcément une bonne équipe, parce que les joueurs, comme on dit, ne vont pas se comprendre, ne vont pas s'entendre. Ils n'ont pas le même système de codage.
Pierre Parlebas, professeur de sociologie à la Sorbonne, qui nous parlait de l'intelligence collective au soccer, mais également qui a fait référence au handball. Je le soupçonne de connaître, Hugues de Roussan, vos antécédents olympiens.
Oui, je pense qu'il a fait un peu d'Internet.
Et à ce titre, donc, est-ce que vous, comme olympien, vous avez une prévision, des prédictions pour la Coupe du monde?
Que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne, mais revenons donc au ballon de la Coupe du monde, le Jabulani. Est-ce qu'on a la moindre idée, Hugues, s'il aura un impact sur la qualité du joueur et des équipes? Ça compte, le ballon?
Ça compte pas vraiment. Ça changera pas grand-chose à la qualité du jeu. Cependant, les joueurs devront s'adapter aux caractéristiques particulières du ballon, et c'est en s'adaptant individuellement qu'ils vont pouvoir enrichir l'intelligence collective de leur équipe.
Si je comprends bien, de dire que c'est la faute du ballon, c'est une excuse.
Une très mauvaise excuse.
Merci, Hugues.
Au revoir.
Ici Mario Masson de l'émission Découverte. Vous avez manqué un reportage des années-lumière ou vous voulez simplement écouter l'émission quand bon vous plaira? Facile! Le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Il est également diffusé en direct par flux MP3. Il est même disponible par satellite sur Sirius. Notez cependant que les années-lumière n'est pas encore diffusé sur les autres planètes du système solaire, mais on y travaille ardemment.
Nous allons maintenant vous parler de dragons des mers. Pas ceux des légendes comme le monstre du Loch Ness ou l'Ogopogo du lac Okanagan, mais plutôt de vrais dragons des mers. Ceux qui ont vraiment existé. Des dragons qui font l'objet d'une étude publiée cette semaine dans la très sérieuse revue Science, Gaëlle Lucia Berdoux.
Oui, Chantal, ils ont existé à l'époque mésozoïque, c'est-à-dire il y a entre 200 et 65 millions d'années à peu près. À l'époque où les dinosaures peuplaient la Terre, il y avait dans les océans, non pas des dinosaures, mais de grands reptiles qui ressemblaient effectivement à l'image qu'on peut avoir de ces monstres marins. Alors, certains de ces reptiles pouvaient mesurer 15 mètres. Il y en avait avec des longs, longs coups et des espèces de nageoires en forme de pagaies. D'autres qui ressemblaient plus à des gros thons qu'on aurait affublés d'un bec de dauphin. Donc, c'était de grands prédateurs qui occupaient un peu la fonction que peuvent avoir de nos jours les grands mammifères marins dans la chaîne alimentaire. Et dans Science, cette semaine, une équipe de chercheurs français s'est penchée sur ces grands reptiles marins pour mieux comprendre leur fonctionnement, leur mode de vie et surtout leur température.
C'est curieux quand même la température, Gaëlle, parce qu'on a l'impression que quand on parle de reptiles, on parle d'animaux qui d'emblée ont le sang froid.
Oui, et pourtant ce n'est pas si simple. C'est même un vieux débat chez les paléontologues. Les dinosaures et leurs contemporains marins étaient-ils endothermes, c'est-à-dire à sang chaud, donc capables de maintenir leur corps à une température constante en dépit des conditions climatiques, un peu comme nous, comme les mammifères, ou encore étaient-ils ectothermes, donc à sang froid, comme c'est le cas effectivement de tous les reptiles qu'on connaît de nos jours. Et ce débat est alimenté par plusieurs indices qui laissent à penser que jadis, certains dinosaures et donc certains de ces grands reptiles marins étaient capables de thermorégulation, donc étaient à sang chaud. C'est ce qui explique l'un des auteurs de cet article publié dans Science, Christophe Lécuyer, qui est professeur de géochimie à l'Université Claude Bernard à Lyon.
Les paléontologues ont été les premiers à donner des indices, c'est-à-dire que on a retrouvé des fossiles de ces grands reptiles marins dans des sédiments marins qui ont été déposés à l'époque à des hautes latitudes, donc dans des régions froides, où on n'a jamais trouvé de restes de crocodiles ou de tortues, qui sont des reptiles, là on en est certain, à sang froid. Alors ça c'est le premier indice. Et puis d'autres paléontologues ont étudié de très près la structure très fine des tissus osseux, des os. Ils ont fait de l'histologie, vous voyez, un petit peu comme les experts là qui veulent savoir, qui font parler les squelettes, qui font parler les os. C'est-à-dire, en regardant de très près, ils ont fait ce qu'on appelle des coupes histologiques. Ils ont regardé la structure fine de ces os. Ils se sont aperçus qu'ils étaient fortement vascularisés. C'est-à-dire qu'une quantité importante de sang pouvait circuler au sein de l'animal, lui permettant de maintenir une température corporelle élevée. Mais d'autres paléontologues défendaient que ces animaux, quand même, ça reste des reptiles. Et à l'heure actuelle, on ne connaît que des reptiles à sang froid. Donc ce débat nous a donné envie, à nous, géochimistes, en collaborant avec des paléontologues, eh bien, d'en savoir un petit peu plus, d'essayer d'avancer, de trancher ce débat.
Christophe Lécuyer de l'Université Claude Bernard à Lyon. Alors, Gaëlle, pour trancher ce débat, justement, il faut prendre la température de reptiles marins qui sont morts, je le rappelle, depuis 100 ou 200 millions d'années, rien que ça. On fait ça comment?
En fait, on utilise une sorte de thermomètre chimique, si vous voulez, qui est très sophistiqué. En fait, l'équipe de M. Lécuyer a utilisé une méthode qu'elle avait déjà appliquée il y a quelques années à l'étude des dinosaures terrestres et qui lui avait permis d'ailleurs à l'époque de conclure que certains dinosaures avaient effectivement le sang chaud. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des isotopes ou des formes, si vous voulez, de l'atome d'oxygène. Le principe, c'est qu'en grandissant, ces reptiles ont emmagasiné dans leurs os, dans leur squelette, dans leurs dents, de l'oxygène sous forme de phosphate. Et on sait que selon la température de l'eau dans laquelle ils vivaient ou de l'eau qu'ils consommaient, le rapport de deux isotopes de l'oxygène dans leur squelette varie. Alors ça donne la température corporelle des reptiles, mais encore faut-il connaître la température de l'eau dans laquelle ils vivaient pour savoir s'ils étaient à sang chaud ou à sang froid. À nouveau, les explications de Christophe Lécuyer.
C'est-à-dire que nous avons réussi à trouver dans la même couche sédimentaire, c'est-à-dire des fossiles qui vivaient à la même époque et a priori dans la même masse d'eau, des restes, des dents de reptiles marins avec des dents de poissons.
Des poissons à sang froid, bien sûr.
Voilà, ces poissons à sang froid qui ont une température corporelle qui reflète celle de l'eau. Et ce que nous savons, parce qu'on l'a calibré dans l'actuel, c'est que le rapport oxygène 18 sur oxygène 16 dans ces poissons, il augmente avec la température qui diminue. C'est-à-dire qu'on s'attend à le voir augmenter ce rapport chez des poissons qui vivaient depuis des basses latitudes, équatoriales tropicales, jusqu'à des latitudes élevées, tempérées froides, à subarctiques. Alors après, on analyse aussi la composition isotopique des restes fossiles de ces reptiles, qui ont vécu au même endroit que ces poissons. Si les compositions isotopiques des reptiles sont les mêmes que celles des poissons, alors ça voudrait dire que ces reptiles sont des reptiles à sang froid, comme tous les reptiles que nous connaissons.
Et est-ce que c'est le cas?
Eh bien, c'est exactement l'opposé de ce que nous avons pu mesurer et découvrir. C'est-à-dire que, bien au contraire de ce schéma, on s'est aperçu que la différence de composition isotopique entre les reptiles et les poissons ne faisait qu'augmenter quand on mesurait des échantillons qui s'approchaient de plus en plus des pôles, des régions froides. Alors, l'explication est simple, finalement. C'est que ces reptiles marins, leur température corporelle est constante, quelle que soit la température de l'eau où ils vivaient.
Et est-ce que ces reptiles marins avaient une température corporelle de 37 degrés comme nous?
Alors, on ne peut pas dire 37 degrés. Hélas, nous n'avons pas cette résolution. Nous arrivons à conclure que cette température corporelle était entre 35 et 39 degrés.
Monsieur Lécuyer, qu'est-ce que ces résultats impliquent pour ce qu'on connaît des dinosaures et des reptiles marins?
Ces résultats, eh bien, ils révolutionnent quand même l'image qu'on a du Mésozoïque. Il faut arrêter d'imaginer un monde habité d'animaux lourds, lents, d'un monde finalement primitif. C'était un monde déjà caractérisé par des écosystèmes complexes, diversifiés, avec finalement un règne au sens large des reptiles, des grands reptiles, aussi bien sur Terre que dans les mers, capable d'avoir développé une endothermie dont les avantages sont de pouvoir, aussi bien pour les grands reptiles marins que les dinosaures, d'avoir conquis des environnements froids, aux hautes latitudes, sur Terre ou dans les océans, c'est-à-dire conquérir des nouveaux habitats avec des ressources alimentaires qui peuvent être importantes dans certains cas. N'oublions pas que le plancton se développe essentiellement dans les régions froides, car c'est dans les eaux froides qu'on peut solubiliser un maximum de dioxyde de carbone. Et c'est là donc que la photosynthèse et que le développement de plancton va être la plus importante. Donc c'est la conquête de nouveaux habitats, mais l'endothermie aussi, ce sont des capacités, si vous voulez, à être des prédateurs, des chasseurs très actifs pendant des périodes assez longues. Et pour ces reptiles marins, ils étaient capables de nager longtemps, vite. Donc, nager longtemps et vite, eh bien, ce sont des avantages pour capturer des proies dans l'océan. Et aussi, d'être capable de... Parce que ce sont des animaux qui étaient obligés d'aller à la surface régulièrement pour respirer. Capables de plonger assez longtemps dans des eaux froides et de capturer des proies aussi en profondeur. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'endothermie, chez les vertébrés, finalement... est une propriété physiologique qui était assez répandue déjà il y a plus de 200 millions d'années sur Terre. Donc ça change un peu notre vision de l'évolution des vertébrés.
Le géochimiste Christophe Lécuyer. Alors Gaëlle, si c'est si avantageux que ça d'avoir le sang chaud, pourquoi ces grands reptiles marins qui avaient le sang chaud ont-ils aujourd'hui disparu?
Eh bien, pour paraphraser M. Lécuyer, peut-être parce que l'évolution n'est pas toujours synonyme de progrès. Et c'est aussi l'avis du paléontologue François Terrien du Royal Tyrrell Museum à Drumheller, en Alberta.
C'est en fait deux modes de vie totalement différents. L'endothermie a ses avantages, mais a aussi ses inconvénients. On voit souvent l'endothermie comme étant supérieure parce que ça, ce sont les mammifères et les oiseaux qui ont ce métabolisme-là. Mais en fait, c'est pas supérieur. Ça permet juste d'être actif plus fréquemment et plus tôt durant la journée ou même actif durant la nuit. Mais ça coûte très cher de maintenir un métabolisme à sang chaud ou endothermique parce qu'il faut manger beaucoup plus qu'un animal qui est ectothermique ou à sang froid. Donc, si l'environnement nous permet de manger à volonté et il n'y a pas de problème d'obtenir des sources de nourriture, donc l'endothermie est une possibilité, mais dans les environnements où il n'y a pas beaucoup de nourriture disponible, dans ce cas-là, être un endothermique est totalement un désavantage parce qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour supporter une population d'animaux endothermiques. Donc, dans ce cas-là, les animaux à sang froid ou les ectothermiques sont beaucoup mieux adaptés à ces environnements-là. Ils peuvent pas être actifs aussi longtemps, mais ils sont capables de survivre avec des baisses de température, des fluctuations de température ou du manque de nourriture également. Donc, de ce point de vue-là, endothermie et versus ectothermie, c'est pas réellement une question de est-ce que l'un est plus évolué que l'autre? C'est réellement une question d'adaptation aux environnements dans lesquels on vit.
Oui, dans des moments de crise, c'était peut-être pas nécessairement un avantage évolutif.
Exactement. Quand vient après, par exemple, une extinction massive où tous les animaux disparaissent et beaucoup de plantes, beaucoup de nourriture disparaissent, dans ce cas-là, les endothermiques sont les premiers à disparaître parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour leur permettre de survivre, tandis que les animaux à sang froid, les ectothermiques, eux, peuvent se satisfaire de très peu. Donc, habituellement, ce sont les animaux à sang froid qui survivent à ces grands changements environnementaux.
François Thérien, paléontologue au Royal Tyrrell Museum en Alberta. Gaëlle, pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'enfin ce débat sur l'existence des reptiles marins anciens et même des dinosaures à sang chaud est enfin clos?
En tout cas, c'est l'avis de Christophe Lécuyer et de ses co-auteurs de cet article dans Science. C'est aussi l'avis de François Thérien qu'on vient d'entendre. Après tout, c'est peut-être faux de dire que tous ces grands reptiles à sang chaud n'ont laissé aucune trace. Il suffit de penser aux oiseaux qu'on dit maintenant issus d'une lignée de dinosaures et qui, après tout, sont à sang chaud.
Eux aussi. Merci, Gaëlle.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, la commémoration du centenaire de la naissance du défunt commandant Jacques-Yves Cousteau, qui nous a fait découvrir les océans comme nul autre auparavant.
Le commandant Cousteau nous a apporté l'émerveillement en découvrant le monde sous la mer. Et de cet émerveillement, il a compris et il nous a fait comprendre l'extrême fragilité de ce monde magnifique. Et cela lui a donné envie de le protéger. Et c'est ainsi qu'ensuite il a mené l'ensemble de ses combats pour la vie, pour la nature, pour la beauté de notre environnement aquatique.
C'est maintenant l'heure du facteur et voici la question de la semaine.
Le premier génome synthétique d'une bactérie a été créé par l'équipe américaine de l'Institut Craig Venter. J'aimerais connaître la signification et la portée de cette avancée scientifique. Merci beaucoup. Paul Duhaime, Québec.
Alors, petit rappel de l'histoire, Craig Venter, c'est ce généticien américain fort médiatisé qui a beaucoup travaillé sur le séquençage du génome humain. Il y a un peu plus de 3 semaines, son équipe a publié un article dans la revue Science, un article qui s'intitule « Création d'une cellule bactérienne contrôlée par un génome synthétisé chimiquement ». En fait, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont réussi d'abord à séquencer l'ADN, le chromosome donc, d'une bactérie, puis à le synthétiser, le recréer en laboratoire, pour ensuite l'insérer dans l'enveloppe ou dans le corps, si vous voulez, d'une autre bactérie et créer ainsi un nouvel organisme vivant. Alors la question, les scientifiques ont-ils bel et bien synthétisé la vie, comme l'ont titré plusieurs journaux? Gaëlle Lucia Berdou a posé cette question au microbiologiste Vincent Martin de l'Université Concordia, spécialiste en génomique microbienne.
C'est la différence entre la création et le design. Alors, la bactérie même et son contenu génétique étaient connus et étaient définis. Son génome complet avait été séquencé. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont créé, c'est plus quelque chose qu'ils ont recréé dans le laboratoire. Alors, tout ce qu'ils ont fait, c'est pris la séquence du génome de cet organisme-là et répéter exactement la même chose identique, mais de façon artificielle.
Et ils l'ont mis, dans le fond, dans une bactérie qui était vivante.
Oui, finalement, ce qu'ils ont fait, puisque c'est l'étape qui est un petit peu compliquée quand on fait ce genre de truc-là, c'est que faire la synthèse dans le laboratoire d'un chromosome, c'est une chose, mais c'est de démarrer finalement les fonctions qui sont encodées sur ce chromosome-là qui est plus difficile. Alors, la façon qu'ils ont agi, c'est qu'ils ont pris leur chromosome synthétique en question et puis ils l'ont inséré dans une souche d'une bactérie qui était déjà vivante avec son propre chromosome, mais avec un chromosome différent. de celui qu'ils ont synthétisé, puis après ça, ils ont éliminé le chromosome de la bactérie qui était le récipiendaire. Alors finalement, ce qu'ils ont fait, c'est un transfert de chromosome dans un organisme vivant.
Et cet organisme se reproduit, donc il est effectivement vivant. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un exploit technologique?
C'est strictement technologique dans le fin fond, mais ce que ça fait, c'est que c'est là qu'est vraiment l'importance de ce que le groupe de Venture a accompli, c'est qu'ils ont démontré que technologiquement parlant, c'était un truc qui était possible de faire.
Alors, il y a justement beaucoup de promesses qui ont été faites autour de ça ou d'idées qui ont été lancées sur à quoi ça pourrait servir. Il y a beaucoup d'ambitions autour de ça. On parle de faire des bactéries qui pourraient produire des composés chimiques, ceux qu'on veut, bien sûr. On parle même, on va jusqu'à parler de recréer des espèces qui ont disparu. Est-ce que c'est trop ambitieux, à votre avis?
Finalement, il faudrait distinguer entre finalement les organismes unicellulaires et les organismes multicellulaires. Je pense que du côté unicellulaire, c'est dans l'éventuelle possibilité de recréer certains organismes comme ça. Dans le multicellulaire, évidemment, ça devient plus compliqué parce qu'on parle de différentes cellules spécialisées et de tissus et de systèmes assez beaucoup plus complexes qu'un organisme unicellulaire. Mais j'imagine qu'éventuellement, oui, recréer une souche d'une bactérie unicellulaire serait possible. Il y a un concept qui circule dans la recherche en biologie synthétique, c'est le génome minimal, en autre mot, quel est le nombre de gènes et quels gènes sont nécessaires pour créer le plus petit génome qui pourrait être vivant, finalement.
Oui, parce que sans doute que faire l'exercice pour un animal ou un être vivant beaucoup plus complexe, un humain par exemple, ce serait beaucoup plus compliqué.
Oui, et puis éthiquement un peu plus difficile à justifier aussi.
Sans doute. Merci beaucoup, M. Martin, pour ces explications.
Pas de problème.
Vincent Martin est microbiologiste à l'Université Concordia. Pour vos questions de science, vous pouvez nous les laisser par téléphone de la Grande Région de Montréal. Vous composez le 514-597-6166 ou de l'extérieur, le numéro 1-800-752-9050. Chronique des années-lumière maintenant cette semaine, la technologie, les technologies d'information et de communication avec Hervé Fischer. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors vous rentrez justement d'une conférence à Paris, une conférence Google où vous avez prononcé une allocution sur le téléphone numérique et son rôle qui est en pleine évolution.
Oui, vous savez que Google développe le système Android de téléphone et là, ils avaient réuni toute la crème parisienne des directeurs de marketing, de sites web pour justement évoquer ce qu'on pourrait appeler l'ère du mobile.
Mais on n'est pas déjà dans l'ère du mobile depuis un moment, déjà, à voir les gens sur la rue qui ont toujours l'excroissance téléphonique à la main, à l'oreille?
Scotché. Oui, c'est sûr qu'on devient nomade et mobile, une culture mobile, et les jeunes en particulier, on le voit bien. Mais il faut quand même prendre conscience de ce que ça signifie. D'abord, le mobile, c'est peut-être un terminal de ce qu'on appelle le nuage numérique, c'est-à-dire les énormes silos où vous avez tous vos logiciels, tous vos dossiers, tous vos courriels. Et donc, on se branche, c'est miniaturisé, mais on se branche par Internet sur l'énorme réservoir d'informations et de dossiers personnels. C'est le développement de ce qu'on appelle en anglais le digital cloud, le nuage numérique qui permet
qui est omniprésent et qui est au-dessus de nous sans qu'on s'en rende compte, mais qui est au cœur de nos vies maintenant.
Voilà. Alors, c'est ce couple-là, je pense, qui est en train de prendre place. La deuxième chose peut-être qu'on peut mentionner, c'est qu'en 2016, il y aura plus, de navigateurs sur Internet à partir de leur téléphone mobile qu'à partir d'un ordinateur fixe.
Et ça m'étonne quand même, parce qu'il y a quand même, c'est tout petit le mobile, c'est ce qui fait son charme, son attrait, mais parfois, pour l'utilisateur, en termes ergonomiques, ça le rend inintéressant par rapport à une grande tour avec un beau clavier, un grand écran.
Je dirais que c'est très pratique parce que c'est léger, c'est comme une sorte de prothèse du corps, effectivement. Et peut-être faut dire ça, c'est quand même, il y a une sorte de curiosité. Moi, j'appelle ça le silex numérique. Parce que ça me fait penser au caillou magique ou à l'anneau magique ou à la baguette magique. Sauf que maintenant, c'est un objet dont on ne peut plus se passer, qui nous colle à la peau. D'ailleurs, ça devient un objet de style, de décoration. Une femme qui a des boucles d'oreilles en clé USB ou son téléphone en poitrine, c'est une femme branchée. C'est un signal intéressant pour un homme.
Un code.
Un code d'élite, parce qu'au fond, c'est une sorte d'appartenance. Alors, le silex numérique, il est comme une sorte de prothèse de la main, mais aussi, on peut dire qu'il nous branche au corps social. On a besoin d'être branché. C'est comme un cordon ombilical. Si on parle le matin sans son téléphone mobile, on retourne le chercher. C'est comme ses lunettes si on est un peu myope. Et ça fait partie vraiment de ce qu'on pourrait appeler un style de vie mobile. Et le troisième branchement qui me paraît très important, avec un téléphone mobile, vous êtes branché sur le monde supérieur, virtuel, de l'information, du pouvoir. Et on développe toute une pensée magique à ce niveau-là. On arrive dans un monde supérieur qui n'offre pas les difficultés, les souffrances, les résistances du corps réel. C'est ce que j'appelle aussi cyber-prométhée, c'est-à-dire que vraiment, il y a, en anglais, on dit « empowerment », une sorte de montée en puissance de l'être humain grâce à ces technologies qui sont dans ses mains, qui sont sur sa peau et qui le mettent dans un autre monde. Et il y a cette sorte de dévalorisation du monde réel et de survalorisation du monde virtuel.
Vous faisiez référence au fait qu'en 2016, donc, on fera davantage de consultations sur le web à partir d'un téléphone cellulaire qu'à partir d'un ordinateur classique. Et le fameux iPad dans cette équation-là, est-ce qu'il va un peu, il pourrait un peu changer cette donnée-là?
Ça, c'est une objection très intéressante parce que le succès du iPad, ils en ont vendu 2 millions en un rien de temps, montre que malgré tout, le micro-écran du téléphone mobile n'est pas aussi confortable et aussi magique qu'on le dit. On aime bien avoir un écran plus large avec beaucoup des mêmes fonctions. Parce que sur un iPad, on peut lire un livre. Qui va lire un livre sur un écran de téléphone mobile? Qui va suivre un film sur un écran de téléphone mobile? Un nouveau médias ne fait pas disparaître les précédents. Ça sédimente, ça fait une couche de plus, un outil de plus. Comme je dis toujours aussi que moi, je vais continuer à lire des livres sur papier, même pas sur iPad et encore moins sur téléphone mobile. Parce que pourquoi je me priverais d'une ergonomie extraordinaire que celle d'un écran plus large ou d'un livre en papier? Et j'ai pas l'intention de me faire retailler les bouts de doigts au taille crayon, chirurgie ergonomique, pour pitonner sur mon téléphone cellulaire. J'ai pas envie, je pense pas que les gens aient envie de ça.
Cela étant dit, le téléphone cellulaire, Hervé Fischer, peut jouer un rôle à cause de l'aspect miniature et avoir des fonctions qui sont quand même extrêmement intéressantes et que d'autres supports pourraient difficilement accomplir d'une manière aussi pratique.
Absolument. C'est-à-dire, le galet magique, il est vraiment magique. Aucun sorcier n'aurait rêvé il y a 100 ans, 200, 300, 500 ans, 2000 ans d'avoir les mêmes capacités. Par exemple, on peut maintenant avoir un laboratoire d'analyse médicale, d'analyse de sang, qui permet de détecter les infections dans des pays comme l'Afrique où le téléphone mobile est un outil incontournable parce qu'il n'y a pas les branchements fixes. L'OMIT nous promet actuellement que nous allons pouvoir développer des images stéréo 3D à partir d'un écran de télévision. Vous regardez votre télévision et vous faites en quelque sorte éclater dans l'espace son et images, le programme de télévision, grâce à votre téléphone mobile que vous tournez vers le téléphone cellulaire. Il y a énormément de fonctions extraordinaires, absolument fascinantes, que le téléphone mobile permet. Et évidemment, je l'ai toujours dans la main, où que je sois. Donc le téléphone mobile, c'est vraiment comme les chaussures ou les lunettes. Ça fait partie maintenant physiquement de notre corps. Et ça, c'est McLuhan qui le disait. C'est les prothèses dont on ne peut plus se passer.
Et donc tout ça soulève évidemment des questions éthiques, parce que de toujours pouvoir être suivi comme ça avec un GPS intégré dans nos téléphones sans même qu'on le sache, ça soulève quand même...
Oui, en deux mots, l'hyper-personnalisation et la transparence qui fait que vous pouvez être suivi constamment à la piste. J'ai vu moi quelqu'un qui peut écouter les conversations de gens qui sont à 5, 10, 15 mètres. Alors c'est quand même, il y a vraiment des problèmes éthiques qui se posent.
Mais Hervé Fischer, je vous remercie infiniment pour ce petit voyage dans le téléphone mobile et l'air qu'il nous réserve. Merci beaucoup, Hervé.
Merci.
Au revoir. C'est donc ainsi que se termine cette première heure des Années-Lumière. La suite après le bulletin de nouvelles. À tout de suite. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue, ici Chantal Srivastava pour vous présenter la suite de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Au menu de cette deuxième heure, deux grands sujets. Nous vous ferons aimer les mathématiques, et oui, et c'est en compagnie de deux auteurs qui les adorent, le mathématicien bien connu Jean-Marie de Coninck et le journaliste Jean-François Cliche, qui ont écrit « En chair et en maths, rencontre avec les mathématiques qui façonnent notre quotidien ». Deux petits livres joliment illustrés publiés chez Septembre Éditeur qui démontrent de manière amusante à quel point les maths sont à la fois indispensables et aussi accessibles. Mais tout d'abord, on se souvient d'un géant des mers. Il a navigué sur les océans de la planète durant un demi-siècle. Le célèbre commandant Cousteau, dont on commémore cette année le 100e anniversaire de naissance. Avant lui, nous connaissions bien mal nos océans. Grâce au cinéma et à la télévision, il nous a fait voir la faune et la flore marine comme nul autre auparavant. Dès les années 1940 et ce jusqu'à sa mort en 1997, l'œuvre de Jacques-Yves Cousteau a marqué plusieurs générations. Le commandant, comme on le surnommait, aurait eu 100 ans le 11 juin, il y a deux jours. Un événement qui a été souligné cette semaine au siège de l'UNESCO à Paris par sa veuve Francine, qui poursuit aujourd'hui son œuvre. Elle est présidente de la Cousteau Society aux États-Unis et de l'équipe Cousteau en France. À l'occasion de la Journée mondiale des océans, mardi dernier, Francine Cousteau a présenté les activités qui jalonneront l'année du centenaire Cousteau. Elle est allée en studio à Paris pour partager sa passion pour l'œuvre de cet homme qui, coiffé de son béret rouge, a amené l'océan dans nos salons, avec entre autres l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau, une émission présentée dans les années 60 et 70 et dont voici la musique thème.
Le commandant Cousteau nous a apporté l'émerveillement en découvrant le monde sous la mer. Et de cet émerveillement, il a compris et il nous a fait comprendre l'extrême fragilité de ce monde magnifique. Et cela lui a donné envie de le protéger. Et c'est ainsi qu'il a créé d'abord ses associations et qu'ensuite il a mené l'ensemble de ses combats pour la vie, pour la nature, pour la beauté de notre environnement aquatique.
Francine Cousteau, depuis 20 ans déjà, vous avez consacré votre vie professionnelle au rayonnement de l'œuvre du commandant Cousteau, tout d'abord de son vivant et aussi bien sûr depuis sa mort, puisque selon ses volontés, vous êtes devenue la présidente des organisations qu'il a créées en Amérique et en France. Alors vous avez annoncé cette semaine le début d'une année de commémoration à la mémoire du commandant Cousteau, qui aurait eu 100 ans le 11 juin. Commençons, si vous voulez bien, par rappeler le parcours de celui qui nous a le premier fait découvrir le merveilleux monde sous-marin. Il a toujours eu cette passion pour la mer.
Alors, il avait d'abord une passion pour l'aviation et il avait envie d'être pilote. Et c'est parce qu'un accident assez grave en voiture l'a rendu indisponible pour commencer à être pilote et qu'ensuite il n'avait plus la capacité de le faire, qu'il a décidé de se tourner vers la marine. Et je dirais que cet accident, qui devait être très désagréable pour lui, a été certainement la meilleure chose qui est arrivée pour l'humanité.
Il a passé donc des décennies à la découverte des mers, un parcours qui a été semé d'innovations majeures. On l'écoute justement lui-même alors qu'il nous parle d'une invention qui a marqué l'histoire de la plongée sous-marine.
C'est en 1942, sur la Côte d'Azur, que j'ai expérimenté pour la première fois le scaphandre autonome avec mes amis Frédéric Dumas et Philippe Taillet. À cette époque, nous étions loin de penser que notre vie s'en trouverait bouleversée. Par la suite, nous avons complété et perfectionné l'appareil. Mais pour nous, l'essentiel était de pouvoir nous promener dans la mer, descendre, remonter, nous déplacer sans effort.
Alors, c'est l'aqualangue, je pense que c'est l'innovation technologique, Madame Cousteau, vous serez d'accord, qui a vraiment lancé la carrière sous-marine et permis au commandant Cousteau d'explorer les mers. Ce scaphandre autonome à air comprimé qui a vraiment été une véritable révolution pour les plongeurs parce qu'ils n'avaient plus à être liés à leur réserve d'oxygène à la surface par de longs câbles. C'est quand même quelque chose.
Oui, et alors, cette découverte a permis peu à peu d'aller vivre loin sous la mer. Et toutes ces expériences sont à la base de ce qui est utilisé aujourd'hui par les astronautes pour s'entraîner. Puisque lorsque l'on plonge, on se retrouve dans la troisième dimension et c'est une façon de, d'imiter ce qu'ensuite les astronautes trouveront dans l'espace. Et c'est en piscine qu'ils apprennent, ou en mer, qu'ils apprennent à faire ces mouvements, à les répéter, qui seront nécessaires plus tard pour aller réparer dans l'espace des satellites ou des éléments qui sont là.
Alors, cet aqualung, ce scaphandre autonome, c'est la première d'une série d'inventions qui auront permis au commandant Cousteau de faire partager sa passion pour le fond des mers à des millions de cinéphiles, de téléspectateurs. Et au cœur de cette mission, Madame Cousteau, il y a un navire qui vous tient particulièrement à cœur, qu'on appelle la Calypso, et que vous avez vous-même baptisé la Tour Eiffel des océans, la Calypso qui a arrêté de naviguer depuis qu'elle a coulé en 96 à Singapour, mais qui pourrait voguer à nouveau sur les mers dans le cadre de cette année qui commémore le centenaire du commandant.
Oui, bien sûr, le commandant était très attaché à ce navire. C'était vraiment une partie de lui-même. Et on le comprend parce que il a passé pratiquement toute sa carrière sur ce bateau, jusqu'au jour où il s'était rendu compte quand même qu'il faudrait peut-être le remplacer par un autre, et c'est ainsi qu'est née l'Alcyone. Lorsque la Calypso a coulé, le commandant a tout de suite voulu ramener la Calypso en France et essayer de lui donner une deuxième carrière, non pas pour l'exploration, mais pour qu'elle soit un symbole pour l'éducation et pour l'environnement. Il n'a malheureusement pas pu trouver de solution de son vivant. Il est mort un an après que la Calypso ait coulé. Et ça a été une priorité pour moi de continuer ce combat. Ça a été très difficile parce que la Calypso n'appartenait pas au commandant.
Elle appartenait au brasseur Guinness, c'est ça?
Voilà. La Calypso appartenait au brasseur Guinness, au grand-père, qui l'avait acheté pour le commandant et dont le commandant avait l'usage. Et si bien que lorsque j'ai souhaité pouvoir réparer le navire, immédiatement j'ai dû me rendre compte qu'il fallait d'abord que j'arrive à posséder la Calypso. Donc il a fallu que je persuade M. Guinness, qui est le petit-fils de M. Guinness d'origine, que j'avais un bon projet et qu'il pouvait me vendre ce bateau. Et finalement, il a bien voulu donc me vendre la Calypso pour 1 euro. Et nous avons bien entendu tous les deux que cette Calypso serait dévouée à l'environnement et à l'éducation. Et assez vite, j'ai dû me heurter à des très grandes difficultés. D'autres personnes qui réclamaient la propriété du navire et qui ne reconnaissaient pas donc l'acte que j'avais signé avec M. Guinness. Et malheureusement, leur acharnement a duré pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'ils ont perdu absolument toutes les étapes, jusqu'en cassation, où on leur a refusé le pourvoi. Et là, enfin, je dirais que la Calypso a été libre et qu'elle était à nouveau réunie avec Cousteau, et que j'ai dû à ce moment-là me battre pour essayer de recueillir des fonds pour la réparer.
Et c'est maintenant chose faite?
Alors voilà, dès que les gens ont su que je voulais vraiment réparer la Calypso, il y a eu un engouement énorme. Alors, ça m'a permis de lever des fonds pour commencer les réparations. Il faut savoir que le budget pour réparer la Calypso est d'à peu près 8 millions d'euros. J'en suis là, donc effectivement, aujourd'hui, j'ai levé un bon tiers de cette somme et j'ai besoin qu'on m'aide pour continuer à réparer le navire de façon à ce que les gens puissent se dire « Ah, mais j'ai participé à la restauration de la Calypso. Elle est un peu à moi. »
Alors cette Calypso, justement, elle est unique à plusieurs égards, comme ambassadrice de l'environnement, mais également parce que c'était un navire océanographique, peut-être un des premiers aussi sophistiqués, qui faisait aussi office de studio de cinéma flottant. Et justement, Madame Cousteau, je vous propose d'écouter un court extrait d'une entrevue réalisée avec le commandant à bord de la Calypso dans les années 50 par la télé française, alors qu'il venait de remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1956 pour fabuleux film, Le Monde du Silence.
Je me sers des documents cinématographiques pour dans certains buts, soit scientifiques, soit historiques, depuis près de 20 ans. Et j'ai toujours considéré le cinéma comme, dans la vie moderne, comme non pas un accessoire, mais un levier extrêmement puissant, tant pour convaincre les gens que pour faire des démonstrations ou pour condenser dans une période de temps assez réduite l'expérience de plusieurs mois ou de plusieurs années de travail.
Comment est-ce que l'idée vous en est venue de faire des films ?
Je crois que j'ai commencé à faire des films à partir du moment où j'ai constaté que nos camarades et moi, nous avions quelque chose à dire, à faire connaître au public. Vous voyez, à notre époque, je suis convaincu que rien ne peut se faire sans un large appui de l'opinion publique. Rien d'important en tout cas. Et si nous voulons, par exemple, expliquer qu'il est nécessaire pour l'humanité d'entreprendre la conquête de la mer, eh bien, il faut que le public en soit convaincu. Tout ça va de pair. Notre époque ne peut rien faire sans s'associer largement à l'opinion publique.
Alors, un extrait d'une entrevue réalisée à bord de la Calypso avec le commandant Cousteau dans les années 50. Une palme d'or, je le disais, Madame Cousteau, pour Le Monde du Silence. Également un Oscar pour le meilleur documentaire. Et c'est ce film, peut-être, cette expérience-là, qui l'a fait vraiment entrer dans les salons, le petit écran par la suite avec l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau. Un bilan de 115 films, l'océan dans nos salons. C'était vraiment quelque chose de très, très important pour lui que de toucher les gens avec ce qui se passait au fond des mers.
Oui, bien sûr, c'était très important et il faut se souvenir aussi, puisque bientôt nous allons retrouver ces films en DVD, Blu-ray, ils sortent en France, j'espère bien qu'ils sortiront dans d'autres pays. Nous les avons remasterisés et quand on les regarde, quelles leçons ? Parce que à l'époque où le commandant a découvert tout cela, bien sûr, il découvrait avec nous et nous étions ignorants. Et la première fois que le commandant avait remasterisé les films, c'était en 1990, ses collaborateurs lui ont dit « Mais enfin, commandant, il y a des scènes qui sont choquantes. »
Comme par exemple des scènes où on traquait les bêtes ou...
Voilà, ouais. C'est ça. Les requins étaient des sales bêtes, il fallait les éliminer. Les hommes devenaient fous quand ils arrivaient à tuer les requins. Donc, on voit cette expression-là. On voit des gens qui fument. On voit des tas de choses qui, aujourd'hui, tout d'un coup, sont très choquantes. Et alors, le commandant, quand ses collaborateurs lui ont dit « Bon, commandant, il y a des images, il faut vraiment les enlever puisqu'on on remasterise le film. » Et le commandant a dit « Certainement, jamais on n'enlèvera une seule image de ces films. » Parce que si vous êtes choqués aujourd'hui, cela prouve les progrès qui ont été faits en matière d'éducation et de protection de l'environnement. Donc il a refusé qu'on enlève les images. Et aujourd'hui, quand on les regarde, on se dit « Mais c'est vrai, on a appris tout ça. » Et je pense que le commandant avait beaucoup de courage de ne pas changer ces images. Parce que, évidemment, des gens mal intentionnés pourraient dire aujourd'hui, mais regardez ce qu'ils ont fait. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut voir. C'est de dire ce qu'ils ont fait, ah oui, en matière d'éducation, pour qu'aujourd'hui on comprenne que ça, on l'a fait parce qu'on était ignorant, mais aujourd'hui on ne le ferait plus.
Alors, des innovations, on l'évoquait tout à l'heure, Madame Cousteau, entre autres avec le scaphandre autonome qui permet d'aller dans le fond des mers sans être relié par un câble à des bouteilles d'oxygène à la surface, mais également des innovations qui sont les siennes et celles de ses collaborateurs qui ont permis justement de filmer ce qui se passe au fond des mers. Alors, première caméra sous-marine en 1952, des systèmes d'éclairage, de flash, des scooters sous-marins, tout était à faire à l'époque, on ne faisait pas de cinéma sous-marin.
C'est exact. Quand on voit ces films, il faut se souvenir que tout ce que l'on voit, tous les engins qui sont sous l'eau, ils ont été mis au point par Cousteau et ses équipes. Ils ne pouvaient pas aller dans un magasin, les acheter, dire « il me faut ça et ça ». Non, ils réfléchissaient à la situation idéale et à partir de là, ils inventaient le matériel, ils l'essayaient. Quelquefois ça marchait, quelquefois ça ne marchait pas.
Alors, Francine Cousteau faisait référence à l'aspect donc créatif, au test également qu'on faisait des innovations. Je vous propose d'écouter justement un extrait d'un film réalisé par Jacques Herteau qui met en scène en vedette le commandant Cousteau et surtout une soucoupe plongeante. Ça a été réalisé dans les années 60. On replonge dans l'époque.
Nous allons vous raconter une bien étrange histoire. C'est l'histoire de la soucoupe plongeante qui vole. Cela se passait le 21 janvier 64. Nous sommes à bord d'un Globemaster de l'US Air Force quelque part entre Marseille et Los Angeles. C'est parce qu'il ne possède aucun engin de ce genre que les Américains ont demandé au commandant Cousteau l'autorisation de faire une série de plongées dans les eaux du Pacifique. Si ces essais sont considérés comme satisfaisants, alors ils entreprendront la mise en construction d'une série de soucoupes.
Est-ce qu'on peut y aller?
Oui, pour moi ça va.
Pour vous ça va. On y va.
Ok, d'accord.
Le giron marche bien?
Très très bien, commandant.
Bon. Alors, bébé.
Oui.
Est-ce que ça suit?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Bon. Ça ne suit pas.
Alors, un extrait donc d'un film présenté dans les années 60 qui présente au public celle qu'on a surnommée Madame Cousteau, Denise, hein, cette fameuse soucoupe plongeante qui a permis de découvrir vraiment les plateaux continentaux au fond des océans qu'on ne connaissait absolument pas à l'époque.
Et oui, ça c'est un engin qui a été conçu, on l'a dit, comme une soucoupe parce qu'il permettait de passer partout sans s'accrocher. Il avait des leviers et des bras qui lui permettaient de faire des prélèvements et évidemment la possibilité d'installer deux hommes à l'intérieur. C'est grâce à cette soucoupe que l'on a pu aller au fur et à mesure des années dans des endroits les plus inattendus, au pied de volcans sous-marins, approcher des grottes, des endroits assez hostiles, et d'aller plus loin dans la découverte de la vie au fur et à mesure que l'on descendait vers le sol des océans.
Il y a même eu des projets pré-continents où on avait littéralement des maisons qui permettaient de faire des séjours prolongés sous les mers. Les explorateurs des mers qui sont devenus un peu des océanautes, précurseurs des astronautes.
Tout à fait. Alors j'étais récemment à Marseille avec Claude Vesely, qui avec Albert Falco a été un des deux premiers océanautes et qui nous racontait donc toutes les expériences pré-continent 1, pré-continent 2 et donc l'expérience en mer Rouge sur Chabroumi qui est un atoll de rêve au large des côtes du Soudan où le commandant avait installé pratiquement on pourrait dire un village sous la mer et la fameuse soucoupe de Nice dans son hangar. Et là on voit ces hommes qui vont passer un mois sous l'eau à différentes profondeurs. L'objectif de cette mission était de savoir si l'homme pourrait vivre et travailler sous la mer. Et vous imaginez l'extraordinaire exploit que ça représentait à ce moment-là. Et évidemment, non seulement ils ont fait le film magnifique, Le Monde sans Soleil, mais en plus, ils ont relevé des données scientifiques extrêmement importantes. Ils ont ramené de nombreux échantillons de la faune et de la flore. Et je dirais qu'à partir de là, a pu se développer des quantités de techniques et de technologies qui sont soit qui ont permis, par exemple, l'exploration sous la mer, y compris l'exploration pétrolière, ou bien l'exploration de l'espace.
Et justement, donc, les contributions involontaires ou indirectes de M. Cousteau à la science sont nombreuses, même si lui-même n'était pas à proprement parler un scientifique de formation, Mme Cousteau.
Alors, c'est vrai que le commandant Cousteau avait été sur la Jeanne d'Arc et avait fait la prestigieuse école de la marine qui formait à l'époque les jeunes gens, et je crois encore, à de très nombreux domaines de technologie et de science. Mais je crois qu'il avait surtout une intelligence tout à fait hors du commun et une capacité de comprendre des quantités de domaines, même s'il ne les avait pas personnellement étudié, parce qu'il a étudié toute sa vie. Et c'est bien pour ça qu'il a été reconnu comme membre de l'Académie des sciences aux États-Unis et dans d'autres domaines, aussi comme membre de l'Académie française, pour prendre deux extrêmes, où souvent les gens qui sont plutôt littéraires ne sont pas forcément des scientifiques. Et bien là, il avait toute la gamme. Il était donc les capacités de la science, ce qu'il ne savait pas, il savait où trouver les hommes qui allaient l'aider à le comprendre. Et il savait aussi écrire, il était un musicien, il était un poète, Je crois que l'étendue de ses capacités est phénoménale.
Mais on lui a par contre peut-être un peu, à une certaine époque, reproché également de la part de scientifiques qui disaient que sur son bateau, il se préoccupait davantage de faire des films que de faire de la science, ce qui impatientait un peu les scientifiques qui étaient à bord, qui eux ne voulaient pas faire du cinéma, mais voulaient faire de la science.
Oui, alors c'est vrai que il faut voir que la Calypso, c'est un bateau de 43 mètres. On ne peut pas mettre de très gros laboratoires sur un bateau comme ça. Par contre, ce qu'il y avait de fantastique, c'est qu'il partait découvrir des endroits où personne n'était allé avant, et donc il pouvait faire certaines expériences à bord. Je crois que un peu de jalousie, on va dire, venait peut-être des scientifiques qui, eux, passent toute leur carrière devant leurs éprouvettes à faire un travail extrêmement frustrant, mais extrêmement utile.
Et qui sont dans l'ombre.
N'auront pas cette chance de pouvoir partager le terrain, comme Cousteau a pu le faire, avec une petite poignée d'hommes et de femmes.
C'est quand même exceptionnel, une carrière comme la sienne. Est-ce que vous pensez, Mme Cousteau, qu'aujourd'hui, on pourrait avoir quelqu'un comme ça qui, comme lui, aurait cette telle aura de respectabilité et de reconnaissance internationale?
Alors, je pense que, dans sa spécificité, il y a très peu d'hommes dans un siècle qui font cela. Mais il y en a d'autres qui font d'autres choses. Et je ne sais pas aujourd'hui s'il y a une personne dont on peut dire qu'elle a pris la suite ou remplacé tout ce talent du commandant. Je crois par contre qu'il a inspiré énormément de monde. Et il n'y a pas une journée sans qu'un scientifique, un journaliste me dise si j'ai fait mon métier, c'est parce que j'étais inspiré par le commandant Cousteau. Donc cette richesse qu'il nous a apportée, elle est multipliée. Et puis, je dirais que la suite du commandant, c'est à la fois les actions entreprises dans le monde entier par une grande quantité de personnes. Et puis peut-être un jour, il y aura à nouveau une personne, on ne sait pas où, quelque part sur cette planète, qui tout d'un coup aura ce génie absolu et je dirais presque universel de la compréhension du monde dans lequel nous habitons. C'est peut-être quelqu'un qui ira dans l'espace, c'est peut-être quelqu'un qui sera attaché à autre chose qui concerne notre univers.
Il faut dire aussi, Mme Cousteau, que le commandant a connu donc un début de carrière fulgurant associé au développement de la télévision, de l'audiovisuel. C'était tout nouveau et tout était à faire à l'époque. Il a vraiment su saisir l'opportunité qui s'offrait à lui.
C'est vrai, il a compris tout de suite l'importance de l'image qui arrivait dans chaque foyer. Ça, il l'a compris tout de suite, que c'était vraiment l'outil qui allait lui permettre d'apporter à chaque individu la beauté de ce qu'il était en train de voir. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux et il aimait les gens et il avait envie de leur faire le cadeau de ce qu'il voyait. Et vous savez, il avait ce côté un peu comme les enfants. Quand ils découvrent quelque chose, ils vous l'apportent tout de suite en disant « regarde, regarde ». Eh bien, Cousteau, c'était ça. Il voulait, quand il voyait quelque chose de beau, il voulait tout de suite que les autres le voient. Et il est vrai que la télévision lui a permis de faire cet acte généreux et de l'amener à chacun.
Il s'est aussi servi de son poids, de son influence, Francine Cousteau, pour prendre des engagements sur la scène environnementale. Il est devenu un écologiste, un environnementaliste, avant même que ce soit à la mode de se camper dans ces positions-là. Je vais vous rappeler peut-être une citation d'un Canadien, le Canadien Maurice Strong, qui était secrétaire général du sommet de Rio en 92, qui a dit, vous devez vous en rappeler, « C'est mon héros. Il a plus de puissance que les chefs d'État. Je l'appelle Capitaine Planète. » Justement, ce passage du commandant en 1992 au sommet de la Terre de Rio, c'était tout un événement parce qu'on dit qu'il était le seul qui n'était pas un chef d'État à faire partie de la photo officielle à la clôture du sommet.
Mais c'est vrai, alors le commandant appréciait beaucoup M. Strong et ils étaient là-bas ensemble, effectivement. Il s'est trouvé que j'étais moi-même à cette époque-là aussi à Rio et le commandant était heureux parce qu'il se disait, ça y est, on a réussi à mettre ensemble tous les chefs d'État, il va se passer quelque chose pour la planète, ça va changer. Et il était le seul, sur cette photo que vous avez certainement vue, à avoir été convié sur la photo et qu'il n'était pas un chef d'État, parce qu'il était reconnu comme ayant une influence au moins aussi grande que les personnes qui étaient là.
Alors, Francine Cousteau, justement, pour témoigner de l'engagement environnemental du commandant, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un entretien qu'il a accordé en 1989 à Robert Guisculli, qui a été diffusé sur notre antenne à la télé de Radio-Canada. Il est question de l'Antarctique, une des passions du commandant.
La première fois que j'ai mis le pied sur l'Antarctique, c'était avec une grande émotion, bien sûr. Nous y étions arrivés avec la Calypso pendant la belle saison, c'est-à-dire décembre, janvier, février. Mm-hmm. Et nous avions rêvé de ce voyage depuis des années et des années. Nous risquions un peu parce que le bateau n'était pas fait pour les glaces. C'est un bateau en bois, relativement fragile. Mais nous osions nous présenter dans ce milieu hostile et magnifique. Bon, nous avions des atouts extraordinaires. Nous avions un hélicoptère à bord et surtout un sous-marin d'exploration. Et c'était la première fois qu'un sous-marin d'exploration allait plonger en Antarctique. Nous avions aussi naturellement des habits de plongée étanches, mm-hmm. nous protégeant contre le froid, dont nous allions révéler par nos plongées en sous-marin et en habits étanches, nous allions révéler des choses que personne n'avait vues jusque-là. Et ça, ça a été une révélation, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que un certain nombre d'activités humaines en Antarctique seraient très dangereuses pour l'avenir de ce continent.
Francine Cousteau, on vient d'entendre le défunt commandant nous parler de l'Antarctique et des préoccupations qu'il avait. C'était en 1989 à l'antenne de la télé de Radio-Canada. L'Antarctique, où il a vraiment réussi à accomplir un vrai tour de force pour limiter justement l'exploitation et les installations humaines sur ce continent.
C'est vrai que par son combat, il a réussi à convaincre les chefs d'État qui ne l'étaient pas encore à signer ce traité de protection pour l'Antarctique pendant 50 ans.
Le traité de Madrid, c'est ça, 1991, je crois.
Voilà. Alors ça, c'est quelque chose de fantastique parce que c'est un premier pas. Je crois que si on n'avait pas eu ça, on aurait déjà fait beaucoup de bêtises en Antarctique. Et non seulement ça a permis de protéger, mais ça a aussi permis aux consciences de s'éveiller à ce qu'est l'Antarctique. Parce que c'est vrai que lorsque l'on est sur le continent nord, on ne se rend pas bien compte. Et quand on est sur le continent sud, finalement, on n'a pas tellement l'occasion d'aller sur ces immensités, sur ce continent englouti sous la glace, on ne se rend pas bien compte. Et là, il nous a fait prendre conscience. Il a permis de comprendre le rôle majeur de l'Antarctique dans le climat mondial. Et à quel point toute invasion humaine pourrait détruire ce système ou participer à sa dégradation. Et ça, on peut le remercier d'avoir lancé ces opérations-là. Et il faut être raisonnable. Certes, la planète, elle est faite pour les hommes. Mais il faut que nous sachions protéger un équilibre entre ces grands écosystèmes qui rendent notre vie possible et puis les besoins d'espace que nous avons.
Madame Cousteau, donc l'Antarctique le tenait à cœur. Est-ce qu'il a amené également, de fil en aiguille, à s'interroger sur la formation de nos décideurs et à développer une avenue, en termes de connaissances, qu'on tente d'explorer de plus en plus, qui s'appelle l'écotechnie? Alors, c'est un mélange d'écologie, d'économie, de sciences sociales et de technologie.
C'est vrai. Il s'était rendu compte qu'aucun décideur au monde, économique ou politique, n'était formé, lors de ses études, à prendre des décisions, des risques à long terme qui incluent cette approche holistique, donc plusieurs disciplines. Et il s'est bien rendu compte, pour toute la connaissance qu'il en avait, que lorsque l'on veut construire un barrage, lorsqu'on veut aménager un aéroport, lorsqu'on veut construire des autoroutes, lorsqu'on veut aménager des ports, ce genre de très grandes décisions, il ne faut pas seulement se demander comment va être l'usage et ce qu'il va en être pour les usagers, il faut aussi se poser la question de l'économie du système, de ses technologies, mais les êtres humains qui vont être autour de tout cela, comment vont-ils le subir pour les années qui viennent. Et le long terme, cette notion du long terme, c'est 50 ans, c'est 70 ans, c'est 100 ans. Aujourd'hui, on se rend bien compte que tous les décideurs ont été formés pour des mandats qui ont entre 3, 5 ans, 10 ans, ça devient l'exception. Donc, cette réflexion nécessaire sur le long terme, il y a travaillé avec l'UNESCO, c'était à l'époque Federico Mayor qui était à la tête de l'UNESCO, et tous les deux, ils ont mis au point donc un curriculum pour créer des chaires d'université UNESCO, Cousteau, et enseigner cette discipline, l'éco-technique.
Qui rappelle un peu les grands préceptes du développement durable.
Et voilà. Et tout à fait ça. C'est-à-dire que là aussi, on peut dire qu'il a été pionnier, puisqu'il a compris donc, qu'il fallait intégrer, avoir cette approche donc, holistique des problèmes. Et l'application immédiate, c'est le développement durable.
Alors, on offre cette formation donc, en éco-technie dans différentes universités, particulièrement en Europe, je crois.
Voilà. Alors, au départ, il avait, quand il est mort, on avait 5 universités.
En 97, donc.
Voilà. Et aujourd'hui, nous en avons 16, dont 2 aux États-Unis, 1 en Chine, 1 en Tasmanie, en réseau arabe, 1 en Inde. C'est représenté sur tout le globe. Si bien que le réseau écotechnique aujourd'hui, c'est au moins 200 chaires d'université et nous continuons à le développer.
Alors, vous continuez justement, Francine Cousteau, à perpétuer la mémoire du commandant Cousteau. C'est un exercice qui est difficile pour vous parce qu'on entend souvent toutes sortes de choses et vous l'évoquiez un peu plus tôt dans le cadre de cet entretien. Il y a des jalousies, donc dès qu'on le peut, c'est comme si certains prenaient un plaisir à mettre en évidence des contradictions, comme cette histoire au Canada il y a une décennie à peu près, où on avait interdit de naviguer un bateau sous prétexte qu'il avait poursuivi pour chasser des baleines. C'est difficile de perpétuer la mémoire, de préserver le label dans ce contexte-là où il y a des multiples jalousies.
Bon, je dirais que lorsqu'un grand homme disparaît, c'est extrêmement difficile. Si on avait affaire qu'à un musée, ça serait déjà compliqué. Mais là, il s'agit de continuer une œuvre. Et il est très difficile d'établir une crédibilité quand on passe derrière un homme pareil. Donc, les jalousies, vous l'avez dit, un peu de méchanceté, enfin, bon, je dirais des caractères humains négatifs se manifestent. Moi, j'ai essayé d'être raisonnable et modeste par rapport à ce que j'avais à faire. Le commandant, lorsqu'il m'a demandé de prendre cette mission, il savait très bien que je n'étais pas lui. Il savait très bien que j'avais des capacités et des objectifs qui ne pouvaient pas être aussi vastes que les siens. Ce qu'il a demandé, c'est qu'on reste dans la qualité et qu'on protège l'éthique. Et je me suis moi-même posé la question en me disant, bon, qu'est-ce que je pourrais mener à bien de toutes les choses qu'il a faites ? Je me suis rendu compte que sur toutes les inventions, la technique, la science en général, là, on avait des relais qui avaient été pris par des grandes universités, par des entreprises quelquefois ou des États, et que les choses avançaient. Là où je me suis concentrée, je me suis dit, voilà, moi, ce que je sais que je pourrais faire, c'est développer l'éducation. L'éducation pour les enfants, l'éducation pour les jeunes gens qui sont en doctorat. Donc, avec les chaires d'université dont on a parlé tout à l'heure. Ça, je savais que je pourrais le mener à bien, dans la qualité, au niveau d'exigence qu'il avait souhaité.
Alors, Francine Cousteau, pour conclure, on peut peut-être parler brièvement de ce qui nous attend pour l'année qui vient, où on commémore le centenaire de la naissance de Jacques-Yves Cousteau. Tout d'abord, en ce moment même, il y a une expédition qui est en cours avec votre fils, Pierre-Yves, qui est également le fils du commandant, qui parcourt la Méditerranée comme son père l'a fait il y a de cela plusieurs décennies.
Alors, Pierre-Yves Cousteau, qui a 28 ans et qui est un scientifique de formation, Pierre-Yves a fait en particulier une école qui s'appelle l'ISU et qui est un institut de l'espace qui est à Strasbourg. Et il a travaillé pendant un an avec l'Agence européenne de l'espace. Donc, il a fait ça. Il a aussi un autre master en biochimie. Et un jour, Pierre-Yves a dit, puisque moi-même, je ne peux pas partir sur Mars, j'adore ce que je fais, j'adore préparer, travailler les scientifiques et les astronautes et préparer ces expéditions, mais je voudrais être davantage sur le terrain. Donc en même temps, il est devenu moniteur de plongée et en même temps, il a dit, je vais partir avec des gens qui savent déjà faire ça. Et c'est ainsi qu'on s'est associé avec National Geographic. Donc, nous avons une expédition avec National Geographic qui est partie il y a 4 jours en Méditerranée pour revisiter des zones qu'avait visitées le commandant, mais aussi pour voir des zones marines, des espaces marins protégés. Et ça, c'est très important parce que je peux vous dire qu'il est actuellement en Corse. On l'a eu hier soir au téléphone et il était émerveillé par la beauté de la façon dont la faune est en train de se reconstituer sur toutes les aires marines protégées qu'ils sont en train de visiter. Par contre, il a visité près de Marseille un endroit qui n'est pas encore protégé, qui est le Véron, que le commandant avait exploité. Et là, on se rend bien compte que c'était beaucoup plus beau quand le commandant a plongé qu'aujourd'hui. C'est une première expédition. Nous avons la volonté, à partir de cette année, donc, pour le centenaire du commandant, eh bien, de relancer nos expéditions en repartant derrière lui. Et c'est comme ça que j'espère bien qu'on reviendra au Canada.
Ben écoutez, on espère également peut-être voir la Calypso et ce n'est là que certains des événements donc qui vont se produire dans le cadre de cette année de commémoration. Francine Cousteau, je vous remercie infiniment pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la veuve du commandant Cousteau, que vous perpétuez son œuvre comme présidente de la Cousteau Society basée aux États-Unis et de l'équipe Cousteau basée en France. Merci beaucoup, Madame Cousteau.
Merci infiniment.
Et pour conclure, je vous propose donc qu'on se laisse en écoutant justement un message donné au nom du commandant Cousteau. Merci beaucoup, Madame Cousteau.
Merci infiniment.
Le commandant Cousteau a écrit « L'invention du scaphandre autonome et ma passion de la caméra m'ont permis de découvrir et de faire connaître la symphonie fragile du monde sous-marin. Très vite, ma curiosité m'a permis d'écouter et de comprendre l'eau multiforme. J'ai entendu le babil des rivières naissantes et l'étreinte assourdissante des fleuves embrassant les océans. J'ai accueilli le dernier souffle des rivages agonisants et j'ai enfin levé les yeux vers les peuples de l'eau, mes frères. J'ai compris l'indissoluble lien entre l'eau et la vie et ma mission. Me battre pour la vie et les générations qui viennent. Demain, je veux que les droits de ceux qui nous succéderont soient inscrits dans les devoirs de ceux qui existent. Si par mon œuvre j'ai pu permettre à nos enfants et à ceux qui ne sont pas encore nés de vivre dignement dans la symphonie du monde, j'aurai rempli ma mission.
On plonge maintenant dans un tout autre univers, celui des mathématiques. Vous n'aimez pas les maths, ou pire encore, les maths vous font peur? Eh bien, nous avons une agréable solution pour vous, gracieuseté Jean-Marie Deconinck et Jean-François Clich. Dans deux petits livres illustrés publiés chez Septembre Éditeur, ils nous démontrent de manière amusante à quel point les mathématiques sont à la fois indispensables et accessible. Les deux tomes intitulés « En chair et en maths, rencontre avec les mathématiques qui façonnent notre quotidien » sont d'abord destinés à un public adolescent. Mais peu importe votre âge, vous allez y trouver votre compte. Le mathématicien Jean-Marie Deconinck est professeur à l'Université Laval et parmi ses multiples activités, notons entre autres la conception d'un spectacle mathématique qu'il promène à travers le pays. Jean-François Clich, quant à lui, est journaliste et chroniqueur au quotidien Le Soleil. Sophie-André Blondin les a invités tous les deux dans nos studios à Québec. Jean-Marie Deconinck et Jean-François Clich, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce qu'il faut se mettre à deux hauteurs pour intéresser les gens de tous les âges aux mathématiques? Est-ce que c'est ça la clé de l'énigme de votre collaboration?
Bien, il faut croire que ça semble avoir obtenu un certain succès. Puis il faut dire que l'idée de cet ouvrage-là, en fait, des deux ouvrages, parce qu'on est rendu au tome 2, c'est un peu Martin Rochette, l'éditeur de Septembre Éditeur, qui nous a réunis d'une certaine façon, parce qu'il avait entendu parler, bon, il savait que moi, je faisais des shows maths dans les écoles, des spectacles mathématiques dans les écoles. Puis il s'est dit, pourquoi pas faire un livre avec ça, puis atteindre un plus grand auditoire? Puis là, ben, j'ai dit, je suis pas mal occupé, moi. Oui, mais il y a quelqu'un qui travaille au Soleil, Jean-François Clich, qui est un vulgarisateur scientifique, qui a une bonne plume, puis qui a des bonnes idées pour avoir une trame de fond, puis une histoire. Puis Jean-François met une histoire derrière chacun des volumes.
Jean-François, on le sait pour Jean-Marie Deconinck qu'il est complètement mathophile. Est-ce que vous êtes mathophile aussi?
Je le suis devenu parce que, pour tout vous dire, au début, quand c'est justement en sortant de cette rencontre-là dans les bureaux de Septembre Éditeur, je m'étais dit, bon sang, mais dans quoi je me suis embarqué? J'étais, comme tout le monde, convaincu que les maths étaient impossibles à vulgariser et que, bon, il n'y avait rien à faire avec ça. J'ai rarement été aussi content de m'apercevoir que j'étais dans le champ. Je suis devenu mathophile. Dans la chronique que j'ai dans Le Soleil, la chronique de science le dimanche que j'ai dans Le Soleil, j'avais à peu près jamais parlé de maths dans cette chronique-là. Et depuis ce temps-là, oui, j'en ai parlé beaucoup plus. plus, beaucoup plus souvent, de différentes façons. Là, par exemple, en donnant comme exemple le fait qu'il y a des maths, on peut trouver des maths dans les fleurs, il y a des algorithmes assez simples, mais quand même très intéressants dans nos numéros de carte de crédit, dans nos numéros d'assurance sociale, et en montrant, en donnant des exemples comme ceux-là de maths qu'on retrouve dans le quotidien de tout le monde.
Oui, et le pari qu'on a fait, dans le fond, c'est que on peut rendre les mathématiques accessibles et qu'on ne devrait pas avoir peur des maths et que naturellement, on n'a pas peur des maths, c'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'au niveau primaire, les jeunes vont vous le dire, ils aiment ça, les mathématiques, ils n'ont pas peur des mathématiques, mais en quelque part, au niveau du primaire, peut-être parce que ça devient un petit peu plus abstrait, on ne sait pas exactement, là, les recherches ne le démontrent pas, là, mais au niveau du secondaire, on les échappe un petit peu. Puis là, nous, justement, avec le livre qui s'adresse davantage avec des jeunes du secondaire, on va essayer de les rattraper.
Et on va le décrire, les livres, en fait, puisqu'il y a un tome 2. Ce sont des livres qui sont tout petits, faciles à trimballer dans un sac à dos, pas trop lourd, abondamment illustrés et vraiment orientés avec le type d'histoire et le type de personnage qui forment la trame de fond vers les jeunes.
Oui, ben on a écrit ça, puisque ça s'est dérivé de la conférence sur maths de Jean-Marie, on a écrit ça en visant le public en général, mais avec une pensée pour les ados. Donc, c'est pas seulement pour les jeunes, mais oui, dans l'histoire, un peu le scénario qu'on a inventé, dans la multiplication des encadrés qu'on a fait et dans les illustrations, en effet, c'est un peu plus pour les jeunes, oui.
Et le premier tome, c'est il y a trois chapitres, là, c'est l'histoire des nombres, essentiellement. Le deuxième, c'est la cryptographie, là, le codage de l'information. Puis le troisième chapitre, c'est les probabilités. Alors, c'est des sujets universels, en quelque sorte, sauf le deuxième, cryptographie, qui est un petit peu plus pointu, un petit peu plus scientifique.
Oui, effectivement.
Mais quand même, les gens s'y retrouve parce que c'est, comme Jean-François le dit, l'utilisation d'une carte bancaire, c'est quelque chose qu'on fait là, tous les jours. Alors, pourquoi pas savoir comment ça marche?
Oui, vous nous expliquez comment ça fonctionne. Vous parlez de la multiplication des encarts et ces encarts nous permettent de rencontrer des personnages. Et il n'y a pas seulement les personnages que vous avez inventés qui servent de trame de fond qui sont importants là-dedans. Il y a les personnages mathématiques qui sont très importants, qui font avancer l'histoire aussi.
Oui, en effet, ben ils sont très importants et de toute façon, il y a une des choses que personnellement j'ai découvertes en documentant ces livres-là, c'est que c'est des personnages de romans. Ben souvent, ces grands mathématiciens-là, s'il y en a qui dont la vie ressemble à celle de certains espions, d'autres qui carrément là, auraient pu être dans je sais pas quel genre de roman que par exemple Ramanujan aurait pu cadrer, mais
ça c'est un mathématicien indien qui est parti de chez lui, oui.
Qui est mort très jeune.
Mort très jeune en Angleterre, où il avait immigré après une enfance relativement pauvre. Et bon, il avait eu quelques petits emplois dans des ports parce qu'il avait un énorme talent pour les maths. Mais il avait un tel talent pour les maths et ça le passionnait tellement qu'il avait fini par à peu près juste penser à ça au point d'en échouer ses examens de fin de secondaire.
C'est aussi paradoxal
que ça. C'est ça, et c'est à cause de ça qu'il avait fini par se ramasser avec des petits boulots dans des ports et il avait fini par après à écrire un grand mathématicien britannique qui lui a exposé, si ma mémoire est bonne, une vingtaine de théorèmes. Puis là, le mathématicien britannique a reconnu son génie, lui a dit « Viens donc ici, mon grand ».
Oui, c'était Hardy, le mathématicien anglais. Et Hardy et son collègue Littlewood lisaient la correspondance de Ramanujan, puis ils comprenaient rien. C'est comme si c'était des grands mathématiciens, ils comprenaient pas ça, des formules compliquées. Puis ils se sont dit en eux-mêmes « Ça se peut pas que quelqu'un ait simplement inventé ces formules-là. Cette personne-là doit avoir la preuve de ces formules-là. » C'est là qu'ils ont invité Ramanujan à venir en Angleterre et travailler avec eux. Et ça a été une histoire heureuse. Les mathématiques ont connu un tournant bien important à ce moment-là avec les découvertes de Hardy et Ramanujan.
Vous parlez évidemment des grands personnages mathématiques qui ont marqué l'histoire. Euler est là parce que c'est le prince des mathématiciens.
Oui, c'est un grand mathématicien. On vient de fêter son 300e anniversaire de naissance. Il est né en 1707. Je pense qu'en 2007, on a fêté son 300e anniversaire. C'est le mathématicien, on le raconte dans le livre, le plus prolifique de l'histoire. Là, il a écrit au-delà de 1000 ouvrages. Et c'était quelqu'un d'une simplicité déconcertante qui a perdu la vue, d'ailleurs. La moitié de sa production scientifique, il l'a fait alors qu'il était complètement aveugle. C'est pour dire que les mathématiques, c'est un jeu de l'esprit. On n'a pas besoin de nos yeux, de nos oreilles pour être capable d'en faire.
Et on pourrait penser que les personnages mathématiques, ça se résume à des mathématiciens anciens, peut-être barbu, en tout cas, quelque chose qui appartient à l'histoire ancienne, mais vous nous amenez amener aussi des personnages très contemporains et très, très géographiquement proches de nous. Simon Plouffe fait partie de vos personnages.
Oui, en effet, Simon Plouffe fait partie de nos personnages parce que, en lien avec le deuxième tome, le premier chapitre est consacré à l'histoire du nombre pi. Et Simon Plouffe, lui, a trouvé avec une couple d'autres mathématiciens une formule qui permet de trouver une décimale en particulier du nombre pi sans avoir à calculer toutes les autres avant.
Oui, Simon Plouffe fait sa contribution mathématique avec les frères Borwein, justement, ça a été d'établir une formule qui permet de donner la xème décimale de pi sans connaître les autres auparavant, mais la xème en base 2, par contre, c'est en base binaire, en base 16, en fait. Et ça, c'est on n'est pas capable aujourd'hui d'obtenir le même résultat en base 10, là, le fameux développement décimal 3,14, 15, 92, etc. On n'a pas de formule qui nous permet de donner, mettons, la centième ou la dix millième décimale, là, sans connaître les autres avant.
Et lui aussi, Simon Plouffe est un personnage qui a une vie assez intéressante. Il disait lui-même qu'il avait énormément de difficultés à l'école au secondaire. Il a été drop-out ou presque. Et il a fini par, lui aussi, en lisant un livre, un peu comme Ramanujan, il lisait un livre écrit par un mathématicien qui était à l'emploi des très prestigieux laboratoires Bell aux États-Unis, d'où sont sortis notamment le laser et d'autres très grandes inventions. Et il a trouvé une erreur dans l'ouvrage du maître et il lui a soumis bien humblement. Et le dit mathématicien des laboratoires Bell lui a dit, ben, coudonc, vous avez l'air pas pire, vous, venez donc nous rejoindre.
Et là, ben, il a progressé, il a étudié en mathématiques.
Oui,
et...
c'est ça.
Et c'est dire qu'on peut devenir bon mathématicien à tout âge aussi, hein, parce qu'il y a des grands noms dans l'histoire de mathématiciens qui, à l'école élémentaire ou à l'école secondaire, n'étaient pas prolifiques en mathématiques et qui se sont découverts un talent par la suite. Puis je pense, par exemple, à Jacques Adamard, qui, en cinquième année, à l'école élémentaire, avait la difficulté avec les mathématiques et c'est devenu un des plus grands mathématiciens de tous les temps. C'est lui qui a fait la première preuve du théorème des nombres premiers en 1896. Il y a aussi David Hilbert, les fameux 23 problèmes d'Hilbert en 1900 au Congrès international des mathématiciens. Hilbert a lancé un défi à tous les mathématiciens de la planète avec ces fameux 23 problèmes qui a occupé les mathématiciens pendant 100 ans. Bien, lui, à l'école secondaire, il se tenait avec Minkowski et ses parents lui disaient « Non, 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 écoute, tu ne devrais pas te tenir avec lui, c'est un trop grand mathématicien, c'est pas de ta taille, ainsi de suite. » Mais il a quand même décidé de continuer, de persister. Il est devenu un très, très bon mathématicien.
Quand on vous entend parler de ces personnages, justement, on les voit avec de la chair. Et votre livre s'intitule Jean-Marie Deconinck et Jean-François Cliche en chair et en maths. Et c'est un peu ce qu'on sent comme volonté derrière votre initiative, c'est de mettre de la chair autour de cette ossature mathématique qui nous paraît peut-être un peu rigide.
Oui, en effet, ben, c'est ça. Et de deux façons. D'une part, puis ça, c'est Jean-Marie qui, dès le départ, avait beaucoup insisté là-dessus, présenter des mathématiciens, regardez, un tel mathématicien dont le nom m'échappe, mais Jean-Marie va me...
Turing, entre autres.
Alan Turing,
ça.
Oui.
Turing était pas juste un rat de laboratoire, c'était un marathonien, c'était un grand sportif et tout et tout. Ces gars-là ont, et ces femmes-là aussi, encore que...
Il y en a peu, hein?
Il y en a assez peu dans l'histoire des maths, quand on recule pas mal pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les mathématiques.
Oh, c'est ça, purement social.
Présenter ces gens-là qui ont eu des vies comme n'importe qui, comme tout le monde, et d'autre part, montrer les maths dans la vie de tous les jours et en s'amusant un petit peu avec, en montrant qu'il y en a partout. J'ai nommé les fleurs et les cartes de crédit, mais dans le deuxième tome, il y a aussi... on s'amuse à calculer la dimension fractale de la côte de la Gaspésie.
Dans le chou-fleur, on en trouve des fractales.
Dans le chou-fleur, c'est ça. Et on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de mathématiques dans la musique, par exemple. Il y en a énormément. Donc ça, c'est les deux grandes façons par lesquelles on donne de la chair autour des maths.
Oui, ce lien, d'ailleurs, dans le deuxième tome, entre l'art et les mathématiques, ce qu'il y a d'artistique dans les mathématiques, ce qu'il y a de mathématique dans les arts est très intéressant comme dialogue. Dans le premier, il y a aussi les mathématiques dans l'histoire, la naissance des mathématiques, le rôle des mathématiques dans l'évolution du langage. On penserait qu'on a d'abord parlé, ensuite compté, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça.
En effet, ben, je me souviens être moi-même tombé en bas de ma chaise quand je me suis rendu compte qu'on avait commencé à écrire pour compter. Et ensuite que ça s'était étendu au langage. Ce chapitre-là, dans le premier tome, on s'était dit, coudonc, puisqu'on veut faire une invitation aux mathématiques, puisque essentiellement, c'est grosso modo, c'est ça, on invite les gens, on leur dit, regardez, les mathématiques ne sont pas ce que vous pensiez, c'est plus intéressant que ce que vous pensiez, on va vous le démontrer, ensuite, bon, vous pourrez faire ce que vous voulez. Tant qu'à faire une invitation aux mathématiques, autant commencer par le début et expliquer comment ça se fait qu'on a commencé à compter, dans quelles circonstances et pourquoi.
Ce lien avec le langage-là, c'est en lien avec une initiative, Jean-François Clich, qui n'a rien à voir avec ces livres-là en chair et en maths, mais que vous avez lancé, vous qui êtes journaliste au quotidien Le Soleil, pour faire voter les gens sur les expressions mathématiques les plus intéressantes, les plus jolies.
Oui, en effet, parce que justement, en documentant ces deux ouvrages-là, je m'étais rendu compte qu'il y avait une foule d'expressions mathématiques qui étaient, comme vous avez dit, jolies ou poétiques ou fleuries ou complètement flyées. et je me disais, comment ça se fait qu'on ne les voit jamais? Comment ça se fait qu'on ne les apprend pas à l'école? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre imaginaire? Juste l'idée qu'un nombre puisse être imaginaire.
Ne pas exister.
Normalement, non.
ça me jetait à terre. Quand j'ai vu qu'il y avait des nombres aimables et des algèbres aimables, ça a été la même chose. Et donc, je me suis dit, pour les faire connaître, puisque j'ai un blog aussi sur Cyberpresse, un blog de science, de faire une espèce de concours, c'est-à-dire en choisir 5 expressions mathématiques et évidemment les expliquer un petit peu parce que faut que ça serve aussi. Demander aux gens, coudonc, laquelle vous trouvez la plus jolie, c'est laquelle votre préférée dans ces 5-là. Alors, il y avait, dans le désordre, les algèbres aimables, comme j'ai dit, les nombres imaginaires, les nombres transcendants, tente vers l'infini, qui est un peu plus connu, et les poussières de Cantor.
Et le gagnant est?
Le gagnant est tendre vers l'infini. Personnellement, je n'avais pas voté pour lui. Ça m'a beaucoup surpris. Jean-Marie.
Et moi, j'avais voté pour le nombre transcendant et ça a fini dernier.
Un peu d'explication sociologique pour ce grand gagnant, tendre vers l'infini.
C'est un mystère. Est-ce que c'est à cause du mot infini ou est-ce que c'est à cause du mot tendre? Je vais vous dire, je n'y comprends rien. Là. Je ne sais pas pourquoi les gens ont voté pour cette expression-là, mais c'est vraiment intéressant que ce soit le résultat. Final.
On s'en souvient, ça, du secondaire. Et les autres, c'est une porte pour nous intéresser aux mathématiques, comme le sont vos livres en chair et en maths, tomes 1 et 2, sous-titre « Rencontre avec les mathématiques qui façonnent notre quotidien ». C'est vraiment les maths dans notre vie de tous les jours. Inspiré, Jean-Marie Deconinck, entre autres, des shows maths. Est-ce que vous continuez à être la vedette des shows maths un peu partout au pays?
Oui, tout à fait. On fait le show maths à travers le pays et on a commencé à faire la deuxième édition, show maths 2, dans lesquels, entre autres, il y a les GPS. Alors ça intéresse beaucoup les gens, puisqu'on utilise tous des GPS, pourquoi pas savoir comment ça fonctionne.
Alors, dans le tome 1, l'histoire des chiffres, le rôle du hasard, le fonctionnement un petit peu du hasard, l'encryptage. Dans le tome 2, les fractales, l'art et les mathématiques. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y aura un tome 3? Est-ce que ce serait un nombre imaginaire qu'un tome 3?
On est en train de tendre vers un tome 3.
Alors, je vous remercie tous les deux, Marie Deconinck, mathématicien à l'Université Laval, directeur du SMAC, Sciences et mathématiques en action, vedette du show math à travers le pays, merci. Jean-François Clich, journaliste scientifique au Soleil, auteur de la chronique La science au quotidien dans Le Soleil, où vous répondez aux questions des lecteurs de nature scientifique, co-auteur donc de ces livres en chair et en maths chez Septembre Éditeur. Merci de cette visite aux Années-Lumière.
Merci bien.
Merci à vous.
C'est donc ainsi que se termine cette édition des Années-Lumière réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Sylvain Labrecque. Y ont contribué cette semaine les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Gaëlle Lucia Berdou, de même que le chroniqueur invité Hervé Fischer. Ici Chantal Srivastava, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.